Ok, bonsoir. Donc, vous êtes venus très nombreux, ça fait très très plaisir. Donc, merci tout d'abord. Je vous propose ce soir un petit échange autour de la production, on va dire graphique en général, parce qu'on n'a pas que des artistes illustrateurs, on a aussi un graphiste parmi nous. L'idée, c'est d'illustrer un univers, et ce, quand on a un commanditaire derrière. C'est-à-dire, effectivement, on n'est pas forcément à l'origine de notre propre choix, je dirais, d'illustration. On est là en tant que prestataire de service, quelque part. On est là pour produire, et sur souvent des mécanismes qui, derrière, sont là pour nous donner à bouffer. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, messieurs, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter. Et d'ailleurs, comme vous savez mieux qui vous êtes que chacun ici, je vais vous laisser faire, si vous voulez bien faire un petit tour de table. Qui veut commencer? Vous avez les micros, hein, vous pouvez y aller. Enfin, après, les micros ne sont pas indispensables.
Alors moi, c'est James, je suis illustrateur de jeux de rôle majoritairement. Je travaille pour Black Book notamment et Booking Game. J'ai eu la chance d'illustrer pas mal pour Cassius Belli Magazine aussi, et plus récemment j'ai commencé à travailler pour le jeu de rôle Mindjammer, l'univers Mindjammer de Sarah Newton. Voilà.
Merci John.
Ben, de rien.
Bonsoir, alors moi c'est Thomas Boutet alias Mush, je travaille pour le festival Hellfest depuis sa création. Et voilà, que dire de plus à part ça pour l'instant. C'est une bonne entrée en matière, hein, finalement. C'est...
Ça peut te voir, hein, ouais. Tu gères ton image.
Pas trop en dire hein, tout de suite.
Moi, je pensais avoir un peu plus de temps pour réfléchir. Donc, bonsoir, moi c'est Gilles Francescano. Donc, quoi dire, je suis illustrateur depuis 30 ans pour des couvertures de livres, essentiellement dans les univers entre guillemets de l'imaginaire, avec une grosse prédilection pour la science-fiction. Ça, on pourra peut-être en parler pourquoi, je ne sais pas. Et donc, quelques univers de jeux aussi, puisque tu as prononcé le mot de Cassius Belli. Alors, pour les dinosaures qui sont présents dans la salle, dans les années 90, je faisais toutes les troisièmes de couverture de Cassius Belli, en fait. Et quelques jeux, RunQuest, Warhammer, le premier Alone in the Dark aussi. Alors ça, c'est pour vraiment, du coup, les vrais dinosaures. Shadow of the Comet, enfin ce type d'ambiance en fait. Mais c'est ça a été un petit peu pas des incidents de parcours parce que ça reste de belles bornes, mais qui ont marqué entre guillemets mon travail. Mais c'est essentiellement la couverture de livres moi qui m'anime en fait. Voilà.
Okay. J'ai commencé par une première question parce qu'on est face à une problématique qui vous positionne face à des commanditaires. Et on est sur des échanges que vous allez avoir avec eux. Alors déjà, première question, c'est quelle place vous entretenez avec vos commanditaires, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes postures aujourd'hui. Je sais que l'un d'entre vous est salarié, les autres sont plus en freelance. Déjà, ces postures-là sont un peu différentes. Et puis d'autre part, comment vous traduisez tout ce qu'ils chantent leur demande, comment vous arrivez à traduire ça face à des gens qui sont souvent d'ailleurs pas forcément très compétents sur votre champ d'action, et comment vous faites pour échanger avec ces gens-là?
Si personne ne veut y aller, je me casse. On va essayer de... vu que, on n'a qu'une heure, alors on va essayer. Mais là, tu lances des questions, ça peut être deux minutes ou juste oui, et c'est tout. Ou alors une grosse polémique pendant 20 minutes, quoi, parce qu'effectivement... Le fait de travailler avec un commanditaire, et puis tu as prononcé effectivement la phrase fatale, à savoir pas toujours compétent. Moi, c'est sûr qu'en 30 ans, j'ai des millions d'anecdotes juste les plus surréalistes les unes que les autres. Parce que déjà, effectivement, moi, concernant le livre, alors concernant, entre guillemets, les autres produits dont je parlais, le jeu, pour moi, c'était toujours un peu différent. Parce que déjà, je n'étais pas joueur. Et puis, de toute façon, au moment d'illustrer là, une couve, une boîte de jeu, le jeu, il était généralement pas encore jouable de toute manière. Donc là, on avait un brief et puis moi j'avais assez de liberté en tous les cas sur le travail. Alors c'est ce qui a certainement fait que du coup dans mon démarrage de carrière, je dirais, j'ai pris peut-être le mauvais pli de garder cette liberté en fait. Et c'est pour ça que certains éditeurs, il y a eu quand même de gros chocs relationnels, on dira. Mais avant tout, c'est au niveau du livre, la seule, je dirais, la seule prérogative de l'éditeur, c'était de garder le choix de l'illustrateur et de la couverture. Maintenant, ils l'ont même mis par contrat, comme quoi l'auteur n'a rien à dire sur la couverture, parce qu'en fait, il y a très peu de graphistes qui travaillent en fait finalement chez l'éditeur. Et ce qui fait que ça leur permettait, voilà, d'avoir une mainmise en tous les cas sur le choix de l'illustration, des choses comme ça. Alors c'est vrai que des fois, ben, ça s'est un petit peu mal passé. Bon, après j'étais assez souvent plus proche des auteurs, et c'est ce qui a fait que du coup, peut-être c'est ce qui fait que je suis encore là 30 ans après, parce que du coup aujourd'hui c'est les auteurs qui m'appellent en fait, et c'est les auteurs qui imposent ma présence, disons, sur la couverture, même si des fois c'est pas toujours évident de rester entre guillemets. Je dirais pas à la mode, parce que ça, je m'en fous un peu, mais de rester, voilà, de rester un petit peu actuel. Mais c'est vrai qu'après, il y avait des trucs un peu hallucinants. Hein. Enfin, pour la petite anecdote, effectivement, il y a quelques gros éditeurs, que ce soit J'ai lu, Presse Pocket à l'époque, des choses comme ça, où on sentait bien qu'il n'y avait pas vraiment une très grande compétence graphique derrière. Mais par contre, dans le cassage, ça, c'était pas mal, quoi. Et bon, il y avait des petits retours sur les couvertures assez intéressants, enfin, des trucs assez hallucinants, enfin, on y reviendra. Mais, et par exemple, la seule fois où je suis tombé sur quelqu'un qui me commande une couverture avec une carte de visite marquée responsable des couvertures, tu vois, j'avais juste halluciné, je me disais, waouh, je l'ai trouvé, tu vois. Et c'était France Loisirs. Improbable, enfin pour moi un petit peu improbable, et France Loisirs donc éditait pas mal d'inédits à l'époque encore, et puis de traductions, donc en l'occurrence j'avais fait pas mal de séries autour de Robin Hobb à l'époque, ou d'autres auteurs où ça s'était un peu moins bien passé, mais bon. Et en fait, une fois, ça s'est arrêté sur une simple histoire, simplement qu'on n'était pas d'accord sur la couverture. Ils avaient validé, par exemple, un croquis. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu la cuisine, effectivement. On envoie le croquis, on essaie de se mettre d'accord. Moi, à l'époque, je travaillais encore à l'aérographe, donc c'était des grands formats 50-70 sur table lumineuse. Donc je faisais tout mon croquis et tout mon crayonné sur calque. Et après, je mettais un papier donc pour attaquer la couleur sur la table lumineuse, pour pas qu'il y ait de gras du crayon sur l'original. Et donc ils avaient validé ce dessin précis en noir et blanc en fait. Et puis quand ils voient arriver la couverture terminée, là m'appelle, ils disent, mais Gilles, qu'est-ce que t'as déconné, le personnage il est sur le logo. Et je lui dis, mais attends, ça fait deux semaines que vous le savez, puisque c'est le croquis que vous avez validé. Ah ouais, non, ça va pas, tout ça. Donc ils me refont le truc, ils me refont passer le truc, et je lui dis, mais le personnage, en plus, ça dans la description, ça lui convenait pas. Et puis je lui dis, mais il est tel que Robin l'a décrite dans son histoire. Ah ouais, mais je lis pas les livres. Alors là, tu te dis, merde, la seule qui était tombée responsable de couverture, et en fait, c'était la seule qui lisait pas le bouquin. Du coup, en termes de retour et d'échange, c'était juste n'importe quoi. Voilà.
Mais doit-on être étonné ?
Comment ?
Doit-on vraiment être étonné ?
En fait, non, oui. Je te dis, tiens, un truc auquel je m'y attendais pas forcément, mais bon, voilà, une énième anecdote, quoi.
Je crois comprendre que vous avez des systèmes un peu différents, messieurs. Si vous voulez un petit peu décrire ce que vous avez.
Pas tant que ça, mais enfin, moi, c'est plus... Mon cas, c'est un peu une anomalie, quoi. Je suis salarié du festival, mais je travaille chez moi. Donc, je travaille comme un freelance, donc c'est un peu étrange. Je vais au bureau de temps en temps, mais je travaille à distance la plupart du temps. Mais c'est une anomalie comme l'histoire du festival, en fait, parce que mon poste, je crois, je suis pas sûr qu'il y ait un autre festival qui a un graphiste à temps plein à l'année, quoi. En général, les festoches, je bosse avec une boîte de com ou un illustrateur. Donc, ouais, c'est un cas bien particulier. Et puis, voilà, au niveau des échanges, c'est vrai que c'est aussi assez particulier, parce que si vous connaissez un petit peu le directeur du festival, vous savez qu'il peut être un peu excentrique. Mais il a tendance aussi à faire énormément confiance à ses équipes. Et à nous laisser une liberté totale. Donc finalement, il intervient que très peu dans la communication générale du festival. Et il est plus intervenu au début, quand on a mis en place, par exemple, le H, là que je vois, où on a décidé de faire un symbole et de faire un logo qui représentait le festival, un logo reconnaissable. Et bon, voilà, ça, c'est un truc de com classique. Moi, venant de la com, voilà, c'est... C'est vrai que je suis arrivé dans le festival, il n'y avait pas de rétro-planning, ce genre de choses, donc il a fallu que j'enlève tous mes vieux réflexes de boîte de com tout pourri, et pour repartir de zéro, parce que c'est le chaos total, hein, le Hellfest. Hein. Puis, quand j'ai commencé en 2006-2007 en tant que bénévole, c'était enfin Ur partait de zéro et moi j'ai évolué avec le festival, j'ai aussi grandi avec le festival a grossi et c'est juste improbable qu'on se retrouve dans la situation actuelle quoi. Donc ouais, c'est une vraie anomalie et on sait pas combien de temps ça va durer, mais ça, on espère que ça dure le plus longtemps possible. Mais en tout cas, ça, c'est vrai que la com générale est en train de muter et on essaie d'avoir des intervenants un peu différents. Par exemple, cette année, on a eu un peu plus de budget pour la com et donc on a pu faire un vrai shooting avec une vraie équipe vidéo, avec un preneur de son et avec un vrai réalisateur, un monteur. Et c'était la première année où on arrive au bout de 13 ou 14 éditions, je ne sais plus où on en est. Et encore une fois, on est le seul festival à communiquer de cette manière. On a été un des seuls festivals à communiquer comme une boîte de prod d'un film, quoi. Parce qu'au départ, on ne voulait pas communiquer comme un festival classique. Et je ne sais pas si c'était une manière inconsciente de se démarquer, mais en tout cas, l'idée c'était quand même d'aller un peu plus loin que ce qui se faisait à l'époque. Enfin, je parle des festivals de métal, hein, particulièrement. Mais voilà, donc ça continue à évoluer, à se développer, et et du coup, ça ouvre des portes sur l'avenir qui sont assez intéressantes, puisque pour ceux qui sont venus au festival cette année, vous avez vu. On a développé quand même vachement les écrans. Il y a plus d'écrans, des grands écrans, et on va essayer de travailler l'interaction, l'interactivité avec le festivalier à travers les écrans. Il y a pas mal de choses à faire en vidéo. Donc voilà. Mais après, au niveau des intervenants, moi, en tant que commanditaire, j'en ai quand même plusieurs. J'ai donc Ben, le patron, pour la com générale. Je travaille aussi avec Guillaume, qui s'occupe du merchandising du festival, avec qui je produis une partie du merch. Et avec les équipes techniques aussi pour une partie de la scéno, donc c'est un boulot assez large. Et là j'oublie, hein, il y a d'autres trucs, hein. Il y a en plus là je parle pas du détail parce que je me tape aussi toutes les merdes, hein, genre la petite bannière, juste, enfin voilà, je fais tout de A à Z en général les gens se posent toujours la question de savoir pourquoi le festival a un salarié à plein temps, mais en fait il y a énormément de boulot et on s'en rend pas vraiment compte, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on fait plus beaucoup d'affiches, ça c'est un peu dommage, vu que maintenant c'est sold out assez rapidement, on n'a plus besoin de communiquer autant qu'avant et à produire des affiches. Bon, il y aura une petite série quand même cette année sur Nantes, il y aura des petites affiches à Webus, donc c'est quand même cool, parce que quand on est graphiste, on a quand même envie de voir son travail produit sur affiche, c'est quand même une récompense, quoi. Donc voilà.
En termes de lisibilité d'ailleurs, c'est important, c'est-à-dire que une partie du public nantais est touchée par le Hellfest uniquement par les 4x3, etc. Et c'est important que vous soyez là.
Plus maintenant, mais à une époque, oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je me souviens quand même d'anecdotes pas mal où je me suis retrouvé confronté à la réalité. Moi, chez moi, en train de faire les visuels, je me suis retrouvé justement l'année où il y a eu la polémique avec Christine Boutin et où j'ai eu des retours mais improbables sur le personnage de l'affiche, je sais plus, c'était en 2009, qui pour moi était juste une sorte de redneck loup-garou, je sais pas quoi, et qui s'est retrouvé être un pédophile au regard de certains. Et l'année suivante, c'était l'affiche avec les soldats avec les mitraillettes qui s'est retrouvé censuré dans le métro à Paris puis suite à l'affaire Mera, et c'est vrai que quand on travaille chez soi on oublie un peu la réalité et on se retrouve d'un coup confronté à tout ça, quoi. Et à l'époque, ouais, les affiches, je pense, avaient vocation à attirer un peu le public, mais maintenant plus du tout, enfin c'est pas nécessaire, en tout cas.
Oui, c'est
on est le seul festival à vendre, là on a vendu toutes les places en un peu plus d'une journée. Ce qui est le record, notre record, et je pense le record en France. Il n'y a pas de festival qui peut vendre aussi rapidement toutes ces places, quoi. Donc oui, on n'a plus besoin de communiquer autant. Donc la question se pose, c'est est-ce qu'on pourrait pas juste faire une affiche toute noire avec écrire les groupes en Comic Sans, est-ce que ça suffirait pas? La question, on peut la poser, quoi. Quel est mon rôle, quoi? Est-ce que... Donc voilà.
Donc, ça serait un tout petit peu frustré, quoi.
Je serais un peu frustré, ouais.
On passe à toi, James, si tu veux bien, sur justement ton rapport avec les commanditaires. Posture totalement différente, totalement freelance, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça.
Je te laisse expliquer un petit peu.
Moi, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges d'aller-retour avec mon éditeur, en fait. Mon éditeur, je l'ai rencontré pour la première fois l'année dernière. Ça faisait 4 ans qu'on bossait ensemble, on s'était jamais vu. Donc, c'est très solitaire, tout seul devant mon ordi souvent. Et c'est que de l'échange de mails et beaucoup d'aller-retour. Je sais pas trop quoi raconter. Mon boulot, c'est essentiellement du support visuel pour des rôlistes. Du coup, il faut que je laisse de la place pour leur imaginaire et que je laisse des flous pour qu'ils puissent se raconter les choses. Et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de maps maintenant. Je fais beaucoup de cartographie, de science-fiction et médiéval fantastique énormément aussi. Je pense que ça, c'est l'arrivée du jeu de rôle numérique par Roll20 ou des trucs comme ça, qui ont créé une grosse demande de cartes pour avoir un support visuel. Et ouais, au début, c'était beaucoup, beaucoup d'échanges. Et plus on avance et plus je travaille avec eux, plus j'arrive à cerner rapidement les envies, les demandes. Et puis, je suis rôliste aussi. Du coup, je sais ce que j'aimerais avoir à ma table. Et ça permet de gagner pas mal de temps. Du coup, aujourd'hui, je suis assez tout seul, en fait. Je reçois des commandes. Des fois, je reçois un croquis un peu pourri fait sur un bout de serviette de table ou je sais pas quoi. Et...
Spinal Tap.
Hein ?
Est-ce que tu dis Spinal Tap ?
Et à base de ça, il faut que je rebondisse et que je fabrique un univers. Ouais.
Donc là, tu nous dis que pendant 4 ans, tu n'as pas rencontré tes interlocuteurs physiquement, quoi.
C'est ça.
Ok. Et ça ne t'a jamais posé de difficultés particulières ?
Ben, il n'y a pas eu besoin, non.
Ok. Vous seriez-vous vu, vous, dans des... Enfin, travailler de manière aussi distanciée que ça ?
Ben, moi, je vais encore parler un peu du temps des dinosaures, hein, désolé. parce que... Aujourd'hui, c'est sûr que c'est quand même un peu plus facile, forcément. Moi, bon, à l'époque, j'avais forcément inclus dans mon parcours mes 10 années parisiennes pour pouvoir aller lécher les mains, serrer les mains des éditeurs. Du coup, après, effectivement, je m'étais dit, bon, ben, je dois pouvoir un peu quitter Paris, là, à un moment donné, le numérique, les emails, ça doit bien pouvoir fonctionner quand même, tout ça. Parce que oui, effectivement, j'ai quand même commencé avec les cartes de visite faites aux lettres A7, quoi, hein, et puis les factures au carbone, quoi. Donc désolé. Mais effectivement, enfin sur cette anecdote-là, moi ça me dérange pas du tout de pas connaître du tout les gens avec qui je travaille. C'est pas un problème quand ça se passe bien. Oui, après t'as qu'une envie, c'est les rencontrer, boire un verre et te dire ah c'était cool, on s'est bien amusé. Mais c'est tout. Si c'est possible, tant mieux. Si c'est pas possible, c'est pas très gênant. Moi j'ai vendu des couvertures par exemple à l'époque en URSS par exemple, et le gars je l'ai croisé une fois ici 15 ans après quoi, par exemple, hein, on l'avait fait inviter, mais et je me souviens par exemple d'une période un petit peu charnière quand effectivement j'ai quitté Paris par exemple, et sur des délais de livraison par exemple, à l'époque c'était pour une couverture pour Ayerdal, pour J'ai lu, donc c'était encore un original papier, donc hein, tu te retrouves avec un original papier à 500 bornes de chez l'éditeur, et tu dis bon les mecs maintenant on fait comment, et il y avait eu une erreur de délai, ce qui fait que je me suis retrouvé par exemple à courir à Satolas, donc l'aéroport, pour faire envoyer l'original par avion et pour qu'il l'ait dans la journée quoi, en fait. Donc ça c'est sûr qu'aujourd'hui c'est juste un tout petit peu plus simple quoi. Voilà. Surtout quand l'éditeur te dit ah mais on n'avait pas compris, on vous rembourse sur la base d'un chronopost. Ah, tu dis, ah ben merde, j'ai bossé pour Air France, là, du coup. C'est tout. Tu vois. Donc là, voilà, des petites... ça pimente un peu le parcours, quoi, c'est tout.
Et t'as pas eu de difficultés, toi, à passer, justement, à cette culture du numérique
Alors, de difficultés, non, parce que moi, quand je suis tombé dans l'aérographe, comme je te le disais tout à l'heure, c'était vraiment le jour de mes 18 ans, hein, en l'occurrence, puisque c'était un cadeau des copains. Je suis resté avec l'aérographe en main pendant 30 ans, donc... j'avais un peu de mal à le lâcher, quoi, forcément, parce que moi, c'est vraiment, enfin, peut-être qu'on peut parler peut-être de l'évolution du graphisme ou de l'éducation même au graphisme, parce que c'est moi, je trouve que c'est lié par rapport même à la culture de l'image, enfin, ou à l'absence de culture de l'image. Hein. Et ça, c'est peut-être certainement que éducationnel français, quoi, typiquement français. Mais du coup, voilà, moi, j'adorais le médium, en fait. Aujourd'hui, bon, je m'occupe d'une école et à chaque fois, je leur dis, mais trouvez juste votre outil, quoi. Qu'importe l'outil, on s'en fout, quoi. Je veux dire, trouvez juste votre outil. Et bon, effectivement, la découverte de l'aérographe, ça a été un truc d'une fluidité exemplaire. Enfin, pour moi, ça, quand tu parles d'aérographe, mais ah, putain, faut nettoyer. Non, c'est pas pire qu'un pinceau, quoi, nettoyer. Donc, mais du coup, voilà, j'ai juste un peu freiné, un peu des cas de fer avant de passer au numérique. Et bah, oui, après, il y a les premiers outils, donc l'envoi par mail, forcément, là, tu valides tout de suite. Mais après, voilà, passage aux photos, à Photoshop, ça fait. Voilà, 10-12 ans que je suis repassé à Photoshop. Mais aussi pour redécouvrir le plaisir du dessin. Parce que, voilà, le problème de la commande. Moi, j'ai toujours revendiqué le fait d'être illustrateur avant tout, d'avoir des commandes toutes les semaines, de trouver toutes les semaines des commandes. Quand tu fais ça pendant 30 ans, au bout d'un moment, quand le téléphone sonne, en fait, t'en as juste marre finalement. Si c'est pas pour payer ton loyer, tu te dis, bon, à un moment donné, faut essayer de trouver une autre motivation, quoi, tu vois. Et le changement d'outil a été une grosse motivation, quoi.
Ouais, depuis te réinventer, en fait, quelque part, en tant que.
Ouais, reprendre du plaisir, trouver. Bon, c'est l'avantage de l'illustration, et moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est changer d'univers, changer d'auteur, changer de livre. J'ai eu la chance de travailler avec des auteurs qui, pour moi, restent immenses et qui sont quand même immenses, entre Ayerdal, Jean-Claude Dugnac, Pierre Bottero, Robinov, des gens comme ça. Quand tu découvres un univers comme ça, t'es quand même humble et tu te dis, putain, je vais juste essayer de me lever le cul pour essayer de faire un truc le mieux possible. Et moi, l'auteur, pour moi, c'est vraiment le premier public, en fait. Et je me régale d'envoyer la première image ou la première idée à l'auteur et d'attendre sa réaction, quoi. Mais c'est toujours fébrile, quoi. Sûr, ça, c'est...
J'hésite à rebondir, parce que tu as lancé plein de sujets là, du coup, Gilles. Je vais rebondir sur un sujet que tu as abordé. Est-ce que vous, les gars, vous avez eu l'un comme l'autre la notion de galère parisienne, justement, qu'abordait Gilles, les 10 ans obligatoires
Moi, pas du tout.
Pas du tout ?
Non, pas du tout. Moi, je suis sorti de l'école Pivot à Nantes. J'étais rôliste, j'ai envoyé mon CV à Cassius Belli et mes dessins, et puis ça s'est passé comme ça, en fait, après.
Et aujourd'hui, t'es toujours dans ton appart à Nantes, c'est ça ?
Voilà, je suis redescendu dans le sud pour des raisons familiales entre-temps pendant 4 ans, mais sinon, ouais. Je suis revenu à Nantes cet été. En fait, au final, on s'en fout, puisque je n'ai pas besoin de le voir.
Ok.
Je peux aller où je veux.
Bon, la pilule est comment, Gilles, là, que... La pilule est comment, là,
Elle est petite jeune.
C'est ça. Mush, toi ?
Et moi, c'est à peu près pareil. Je suis sorti de l'école, je me suis retrouvé à faire un magnifique stage à Paris et j'ai été embauché direct. Donc finalement, j'ai fait 8 ans à Paris et mes armes dans une boîte de com un peu moisie. Et voilà.
J'espère qu'elle nous entendra pas. Quoi.
Non, mais c'est pas grave, je pense qu'elle n'existe plus. Très bien. D'ailleurs, j'ai bien fait de quitter cette boîte.
Bon, c'est mon côté diplomate. Ouais. Ok. Autre sujet, donc, sur la motivation, en fait. L'autre sujet que Gilles a apporté là. Aujourd'hui, toi, ça fait 8 ans, plus que ça, même 10 ans de festival.
On est en 2017, 2006, ça fait
11
donc,
ans.
11 ans, ouais.
11 ans de festival. T'arrives toujours
à 12 avec le Fury Fest, puisque j'avais bossé sur le.
Ouais, mais là, tu vas gratter vraiment dans les fonds de tiroir.
Ouais, grave.
Est-ce que t'arrives toujours à être motivé par l'aspect, justement, illustration graphique, ou est-ce que tu vas chercher ailleurs ? J'ai cru comprendre qu'il y a un élément de réponse, notamment avec l'aspect vidéo.
Oui, on essaie d'évoluer sur la. Sur la vidéo, et du coup mon job c'est plus vraiment juste de la direction artistique où on pose les idées et on travaille avec des intervenants et c'est ce qui me plaît vachement en ce moment. C'est vrai qu'au tout début c'était tout faire de A à Z et moi je suis pas photographe et je suis pas illustrateur, je suis juste graphiste et plutôt directeur artistique. Non, c'est plus intéressant de travailler avec des vrais professionnels et pas avec un appareil de merde et galérer derrière sur Photoshop, quoi. Mais c'est aussi le côté punk du festival. Moi, c'est ce qui m'a plu, hein, de faire ça avec que dalle. En 2006-2007, ouais, jusqu'à. De toute façon, tu le vois dans l'évolution des affiches, hein. Tu vois que ça a été fait avec pas grand-chose au départ et que ça évolue aussi, quoi. Mais ouais, la motivation, elle est toujours là. De toute façon, j'ai un métier, j'ai un sacré bol, quoi. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et puis, pour avoir connu justement l'expérience avant, et heureusement que j'ai eu cette expérience dans une boîte de com un peu fade, je pense que je peux voir quand même. Je peux voir le positif dans tout ça, sans problème. Non, c'est super. En plus, moi, j'écoute cette zik-là en partie, donc je suis vraiment dans mon univers. Donc c'est super. Ouais.
Voilà, c'est beau. Happy end. Ouais,
franchement, tu fais rêver. James.
Oui.
Comment t'es en termes de motivation, toi, aujourd'hui? Tu bosses que sur du jeu de rôle?
On me demande que ça en ce moment, ouais.
T'as envie de, tes aspirations, c'est rester dans cet environnement-là, tu vois? J'entends Mush qui me dit, c'est cool, je suis dans mon univers.
Bah, moi, c'est à peu près pareil, je suis quand même bien dans mon univers. Après, c'est très varié le jeu de rôle, il y a beaucoup de choses dedans. J'aimerais bien faire du jeu de société un peu aussi, j'aimerais bien partir sur d'autres types d'illustrations, mais toujours en rapport avec le gameplay. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail, dans ce que je cherche à faire de mon travail, c'est que ça va être forcément interprété et utilisé par quelqu'un, en fait. Ce que moi j'ai dans la tête quand je commence à faire mon image, elle va servir, elle va être utilisée et je sais pas comment. Et ça, je trouve ça cool.
T'as des retours ou pas?
Bah, depuis que je fais un peu des festoches comme ça, oui, mais sinon, non, pas du tout en fait. J'ai passé 10 ans dans ma cave à faire des trucs sur mon ordinateur. Moi,
c'est vrai, à côté coup d'épée dans l'eau, ou bouteille envoyée à la mer, c'est marrant.
C'est l'éditeur après qui sait ce qui se passe. Mais...
Et ça, ouais. ça te manque pas les retours? Enfin, tu cherches pas forcément à avoir des retours, hein?
Jusque là je cherchais pas trop, mais depuis que je commence à faire des festos, j'aime bien.
Ouais. Ah, moi je pense que ça fait un peu plaisir.
De savoir comment c'est interprété surtout. Ce que j'aime le plus, c'est qu'on me raconte les histoires qui se sont racontées avec ces trucs là en fait.
Ouais, c'est le fondamental. Alors toi tu travailles beaucoup plus sur des cartes ou du matériel ludique en fait aujourd'hui. Pourtant tous les trois vous êtes vous projetez une intention quand vous êtes en construction d'un univers. On parle de bouquins avec des illustrations, c'est quand même un déclencheur de vente, ou d'achat plus exactement, déclencheur d'achat, la couverture. On parle d'un festoche qui aujourd'hui n'a même plus besoin de com, mais qui a une telle identité visuelle aussi, on la retrouve partout, les gens qui portent des t-shirts du Hellfest ou je me souviens, en Norvège, on était tombé sur une ribambelle de 15 nanas qui avaient tous les trucs du Hellfest au bras, et c'était que des Norvégiennes. Mon Dieu, le truc est vraiment très présent, quasiment envahissant. Toi, tu crées une identité autour de jeu, donc une appropriation tu t'appropries l'identité du jeu autour de ce que tu produis. Il doit y avoir quelque chose d'assez satisfaisant là-dedans. D'extrêmement satisfaisant. Vous laissez une trace, quoi. Je me trompe ou pas?
Alors, sur la trace, je sais pas si c'est le sujet, mais oui, c'est satisfaisant dans tous les cas.
La trace, ça fait beaucoup. Hein.
Bah, j'ai pas rajouté de. Bref. Vous laissez une jolie trace quand même.
Je sais pas, ouais.
Bah, ça vous touche ou pas?
Bah, disons, moi je peux parler de kilos de papier en l'occurrence. Maintenant, avant le numérique, mais les traces, je sais pas.
Tu vois, quand tu vas chez les bouquinistes, que tu envoies tes
Ah oui, bah, ouais. Disons, je préfère que ce soit encore en librairie, tant qu'à faire. Bouquiniste, malheureusement, il y en a aussi.
Bah, on est sur un truc un peu trop. Un peu intergénérationnel. Enfin, quoi qu'on en dise, on a trois générations presque là. Parce que vous n'êtes pas tout à fait des mêmes générations.
Non, mais tu vas pas insister en plus.
Je ne parle pas méchamment de la chose.
Mais c'est vrai. Enfin, moi, je me souviens. Enfin, et ça reste un plaisir. Quoi. C'était croiser ton bouquin illustré à la librairie. Moi, je revendiquais le fait d'être vendu en supermarché à l'époque. T'arrivais, t'avais les rayons. Tu vois, après 15 ans après, j'avais le retour d'Alexis Briclot qui, quand il avait 19 ans, allait en supermarché arracher mes couvertures. Ça te fait plaisir quand même. Tu vois,
c'est clair.
Bon, ok, sympa. Donc tu te dis, effectivement, tu parlais de bouteille à la mer tout à l'heure, il y a quand même ce sentiment-là. Parce que moi, j'ai horreur de faire une commande, par exemple, pour un particulier. Enfin, j'ai horreur. Non, j'ai pas horreur. Disons, c'est pas pareil le sentiment de faire une commande pour un particulier. S'il paye bien, t'as pas horreur, forcément. Mais une commande pour un particulier, je sais que c'est une appropriation. L'image, elle va se retrouver chez lui quelque part. Et puis, Dieu sait si dans 10 ans, il l'aura pas juste oublié dans son grenier. Alors que la publication, c'est pas pareil, quoi. Tu sais que même si toi, tu t'occupes plus de l'image, qu'elle est sortie de chez toi, elle s'est multipliée. Et puis, elle va peut-être tomber entre les mains d'un gamin. Et ça aura fait le même effet que toi, t'as eu en découvrant des Sweet Mac ou les couvertures de Maiden. On va savoir, enfin, tu vois, et t'espères qu'il peut-être y avoir cet impact positif à un moment donné. Et de temps en temps, t'as des retours sur des festivals ou un mec qui te trouve aujourd'hui sur le Facebook ou autre et qui t'envoie un petit mot en disant avec vos dessins, je suis devenu dessinateur. Ça fait un peu plaisir, quoi. Mais
ça continue à vivre.
C'est ça. Après, moi, je reviens sur le rapport à l'auteur. C'est Parce que c'est lui le problème. Moi, pour moi, c'est lui le premier problème, entre guillemets. C'est, il a passé un an, deux ans, cinq ans à élaborer un univers, et tu vas lui fournir sa première image. Et ça, voilà, c'est un petit peu casse-gueule de temps en temps. Alors, il y a quelques auteurs avec qui ça s'est moins bien passé. Je ne me souviens plus des noms, mais sinon, je les balancerai volontiers. Mais sinon, voilà, avec les auteurs avec qui j'ai continué à travailler, ça reste des souvenirs énormes, parce que quand t'as un Duniac qui sort son Étoile morte en deux tomes, il voit le premier tome et puis du coup, il modifie tout son texte pour que le deuxième tome il corresponde à ce que tu as décrit dans la couverture, ça fait plaisir. Tu te dis, bon, ou à Yerdal qui m'appelait sa canne blanche parce qu'il disait qu'il était aveugle et que je lui servais d'image, quoi, tu vois. Ça ponctue un peu des parcours. L'autre confrontation que j'ai eue sur l'appropriation d'un univers, ça a été avec Pierre Bottero, par exemple. Là, c'était plus en jeunesse. Mais moi, quand je suis arrivé dans la vie de Pierre, en fait, il avait déjà créé, il y avait 10 tomes d'Elana qui étaient sortis, des Willan et tout ça. Un univers très foisonnant avec un groupe de marchambres, les fans de Pierre Bottero, j'imagine qu'il y en a quelques marchambres dans la salle, parce qu'il y en a partout. Et moi, c'était une sacrée découverte, ça, tu vois. Et puis, du coup, t'as la confiance de l'auteur, tu dis waouh, ça a tellement matché avec lui humainement que ça va juste être un régal. Et puis quand t'as le retour ensuite des lecteurs, et ça c'était énorme parce que voilà, lui il avait qu'une envie, c'était qu'on revoie toutes ses couvertures ensemble, tu vois. Mais malheureusement, bon voilà, on a fait que le Chant du Troll, le livre illustré et puis les âmes croisées. Mais j'aurais adoré revoir toutes les autres couvertures, quoi, tu vois. Mais bon, il y avait d'autres, il y a un personnage d'ailleurs de Elana dont on n'a pas le passé, et Pierre souhaitait en refaire un livre illustré, mais malheureusement ça s'est pas fait. Je vous laisserai sur ce mystère de ce personnage, mais bon, mais voilà, du coup voilà, c'est quand même des aventures. Et puis je dois être aussi un des derniers illustrateurs en France à lire les livres, parce que je demande à lire les livres en fait avant de les illustrer, et je refuse de travailler sur fiches ou des choses comme ça, sauf si vraiment il y a un problème de délai, quoi. Mais donc voilà, ça, parce que moi l'illustration c'est un plaisir de lecteur avant tout, tu vois. Je me souviens juste du plaisir que j'avais de quand en étant gamin, tu lis un truc illustré, enfin un Van Vogue ou autre, et tu refermes la couverture, tu dis putain, mais qu'est-ce qu'il a fumé le Sweet Mac là pour avoir fait une couverture pareille après avoir lu l'histoire, tu vois. Après tu comprends mieux que c'était juste l'éditeur qui piochait des images, oui, au hasard, ça. Mais c'est juste énorme. Parce que moi, ça fait l'objet de discussions, par exemple, avec des auteurs, dont, par exemple, Jeanne Débat, là, ici, la présidente la directrice artistique du festival, qui est auteur, donc, et on parlait de ce rapport à l'illustration, tu vois, l'illustration fidèle, par exemple, un gars comme Manchu, par exemple, qui, quand il illustre un Stephen King, par exemple, il va dessiner la canette, à l'époque, je me souviens, ouais, il avait dessiné la canette de coca écrasée par le gamin à tel moment. Moi, je suis incapable de faire un truc comme ça. Et je pense que c'est à cause de cette méprise du tout début de mes amours de lecture. Parce que quand je refermais le bouquin, je me disais, waouh, c'est le mec, il a fumé quoi pour faire ce schisme entre le texte et la couverture. Je savais pas que c'était l'éditeur, forcément, à l'époque, qui piochait ça au hasard, tu vois. Et en fait, moi, c'est sur ce schisme-là que je vais travailler. C'est sur faire une couverture, mais qui est peu ou moins de rapport avec le texte immédiat, et c'est ce schisme-là, moi, qui m'a amené toute la dimension poétique de la science-fiction, finalement. Parce que, ok, elle est dans le texte, mais quand tu vois qu'il y a un illustrateur qui a fait encore un pas de côté, pour reprendre une expression de Pierre Bottero, encore plus grand, tu vois, tu dis, waouh, ça devient intéressant, tu vois, une interprétation de l'image, enfin, par l'image, mais qui est encore plus loin du texte, quoi, je dirais. Alors mais, que, bon, c'était juste l'éditeur, et moi, je me suis engouffré dedans, quoi.
Mais ce qui est assez marrant, c'est que c'est... au-delà de la qualité graphique, parce qu'on parle quand même des Sudmac ici, c'était quand même assez chouette. Mais ce décalage entre le bouquin et sa couverture m'a quand même laissé adolescent avec pas mal d'interrogations. Et je pense même que j'ai fait un travail cognitif à certains moments pour essayer d'associer l'image qui était proposée, qui n'avait rien à voir, au bouquin. Et une forme de transformation intellectuelle d'une absence d'intention, en fait. Et c'était juste une absence de travail qui a amené à ça.
Ouais.
C'est ce qui est hyper étrange, en fait.
Non, mais ça, c'est... Moi, je pense que ça a un impact... je dirais une action de l'éditeur non intentionnelle, mais qui a déformé, je dirais, des générations d'illustrateurs. Parce qu'en fait, moi, j'ai, la première fois que j'ai vu Sudmag, j'ai dit, je ne sais pas si je vous remercie ou si je dois vous étrangler. Ça, c'était juste parce qu'il était encore en vie et que... Bon, il l'est toujours, hein, Dieu merci, mais bref. Mais c'est juste que... en fait, ils ont créé un métier alors que ce n'était pas un métier. Et je lui dis, mais en fait, vous êtes juste un accident de parcours, quoi. Enfin, bon, on en a parlé plein de fois avec lui, que ce soit avec Kaza et autres. Tous ces mecs, disons, entre guillemets, qui ont émergé, qui ont rayonné, tu vois, sur une profession, entre guillemets. Mais en fait, il n'y avait pas de profession. C'était juste des mecs qui illustraient de temps en temps des trucs. Et d'autres, ma génération et celle d'après, encore plus maintenant, puisque du coup, tu prends n'importe quel élève en première ou en terminale, sur les 25, il y en a 23 qui veulent être illustrateurs. Alors, 22 dans les jeux vidéo, et puis un qui veut faire de la BD, tu vois. Mais... Et en fait, c'est un problème, quoi. C'est qu'il y a une telle demande de profession, alors que c'est, au départ, c'était une profession qui n'existait pas, quoi, en fait. Des illustrateurs comme Tibor Cernus, qui avait illustré, qui pour moi était un des plus grands illustrateurs des collections que j'ai lues. Alors là, pour le coup, lui, oui, vous le trouvez qu'en bouquiniste, on est d'accord. Ben c'était des boulots magnifiques, mais il en avait juste rien à foutre. C'était des petits formats pour lui, pour bouffer, tu vois. Et c'était pas un métier, en fait. Tu vois, c'était comme un copain qui te demande un dessin parce qu'il a besoin d'un truc, tu vois.
Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu fais partie d'un des derniers qui lit les bouquins. Je pense pas. Je pense que dans le jeu de rôle, on les lit, les bouquins. Je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, James, mais...
Non, moi, je les lis, ouais.
Bah, ouais.
Je suis un peu obligé. Après, moi, j'interviens au moment de la conception de l'univers aussi, déjà. Ouais. Je découvre le bouquin fini en même temps que tout le monde, en fait, mais j'ai des bouts de trucs, des bouts de textes. Du coup, je peux pas lire le bouquin en entier avant de commencer à l'illustrer, parce qu'il n'existe pas encore.
Mais tu crois que tu as une participation, justement, dans ce que va être, y compris l'écrit final, dans, quand tu produis ce que disait tout à l'heure Gilles, c'est que il y a pu avoir des interactions, la notion de canne blanche, justement, entre l'auteur et l'illustrateur. Est-ce que tu crois que c'est ça ? Est-ce que tu penses qu'il y a des allers-retours qui peuvent se produire au fil de ton travail ?
Alors, je suis sûr que oui. Il y a eu des petits bouts de trucs qui se sont passés où mon dessin a changé des petits éléments du texte ou a rajouté du jeu. Et dans tous les cas, j'essaye de caler plein de petits trucs. Moi, quand je fais comme je fais des cartes et que ça a besoin de plein de détails en général, dans les détails, je peux mettre plein de trucs. Et je sais qu'il y a des joueurs qui ont vu des détails et qui se sont concentrés là-dessus et qui en ont fabriqué du jeu qui n'était pas prévu, en fait.
Genre du nom, des trucs comme ça, enfin de la typonomie.
Ouais,
de
ça
la
peut typonomie. Être des noms, ça peut être une petite baraque que tu as mis sur le coin, machin, qui est devenue la baraque des joueurs, ou j'en sais rien. Ça peut être trois rochers que tu as mis sur un caillou qui sont devenus une embuscade.
C'est drôle parce que tu crées vraiment de la matière ludique à partir simplement d'une illustration, quoi.
C'est le but, ouais.
C'est hyper beau. C'est juste hyper beau.
Tant mieux. En tout cas, je trouve ça cool.
Une question un peu similaire pour toi, Mach. L'identité du Hellfest aujourd'hui, elle est, bon, on l'a dit, portée par son image. Tu penses que tu serais facilement remplaçable sur les affiches, etc. aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que tu portes une identité en tant que entre guillemets artiste, quoi, ou artiste tout court, sans guillemets?
J'ai une manière de bosser, ça c'est sûr. Donc je peux être, tout le monde est remplaçable, donc oui, je suis remplaçable. Mais après, j'ai ma manière de bosser, donc ce sera sensiblement différent. Mais les codes sont là, donc il suffit de reprendre les codes. Et je pense que oui, sans problème, je peux être viré demain. Mais je suis pas sûr qu'il y a un intérêt à faire ça pour l'instant, quoi.
Que tu crois ? J'en parlais avec ton patron. Hein ? Ok. Je fais gaffe à l'heure quand même. À quelle heure il est moins le quart.
Pardon ?
Merci. Bon, je vais passer sur l'étape de production parce qu'il nous reste un tout petit quart d'heure et j'ai envie qu'il y ait un peu d'échange. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce qu'on a vu un petit peu jusque-là, messieurs ?
Non, mais c'était intéressant ce que tu disais sur les petits détails qui prennent une importance que ça fait écho un peu avec certains éléments qu'on met en place au tout début d'une session et qui se retrouvent à être décrites sur le net après. Et c'est vrai qu'au départ, on fait ce boulot-là pour avoir un retour. Je pense que si je fais ce métier-là, c'était pour d'une manière produire et avoir un retour. Et c'est vrai que bon, bah, le retour, c'est quand même, ça a quand même dépassé toutes mes espérances. Mais, euh, Mais ce qui est génial, c'est de voir les gens scruter le moindre détail et essayer de trouver la programmation à travers les visuels, sachant que nous, on ne la connaît pas. Et que là, au jour d'aujourd'hui, je ne connais toujours pas la programmation à venir. Donc, c'est quand même assez drôle.
C'était justement ma dernière question à ton sujet. Justement, comment tu te lances ? Faute de connaître la programmation, etc., t'as pas de matière, en fait.
Non, on repart de zéro chaque année. C'est super. C'est, l'idée, maintenant, c'est surtout d'essayer d'inscrire le H chaque année et de jouer avec et de le retrouver d'une manière ou d'une autre sur les affiches. Donc, c'est un peu ça, l'élément de départ. Après, les inspirations, donc, je suis un gros fan de... Je bouffe beaucoup de films et j'en ai mangé beaucoup et je pense que ça se voit. Et c'est essayer de fusionner certains éléments. Donc cette année, et c'est un peu le jeu aussi, le jeu de référence ouverte, on va dire. Et je pense que c'est intéressant pour les gens de se dire, ok, donc ça c'est ça, et on lance des pistes quand même. C'est tout n'est pas gratuit, quoi. Donc là, c'est sûr que le Lando, tout le monde aura repéré Rosemary's Baby, mais il y a d'autres éléments, et c'est un peu le jeu aussi pour nous. Donc, mais voilà.
Donc, il y a un côté ludique dans ce que tu fais.
Et il y a un vrai côté ludique là-dessus aussi, ouais. C'est clair. Okay.
Toi, t'as une approche ludique, Gilles, ou pas dans ton intention ? Est-ce que un peu ludique, un peu de jeu avec ton spectateur, enfin avec ta cible ?
Déjà, j'ai qu'une envie, moi, c'est m'amuser en la réalisant. Déjà, en réalisant une illustration, quand je pars sur une idée, déjà sur un croquis. Bon, des fois, tu lis le bouquin et puis te dis. Tu chopes l'idée, mais ce que j'aime bien, moi, c'est de lire le livre, le laisser reposer quelques jours, et puis voir ce qu'il en reste, et puis là, travailler autour de l'idée. Des fois, 3 jours après, il n'y a toujours rien, quoi. Et ça, c'est un peu plus problématique. Il y en a eu quelques-uns, mais bon, on ne dira pas les noms. Mais ouais, l'aspect ludique, par exemple, sur les couvertures d'Ayerdal, parce que sur l'Histrion, par exemple, où il mettait une méta-histoire avec un univers, le Dem. Ceux qui ont lu avec un univers complètement ouf, dans Sexomorphose par exemple, qui était paru chez J'ai lu à l'époque, le sexomorphe en l'occurrence, c'était donc le héros qui changeait de sexe à volonté, et en fait j'ai fait une couverture qui avait au départ rien à voir, en fait le personnage c'était un histrion en fait, hein, puisque du coup c'est pour ceux qui connaissent l'histrion, ça fait partie de cette série là et le personnage féminin donc jetait un jeu de cartes en fait en l'air, tu vois, et en fait une fois imprimée la carte elle faisait peut-être 4 mm de haut, tu vois, mais c'était des petits trucs amusants parce que c'était du coup des cartes composées roi et reine, quoi, en fait, tu vois, des conneries comme ça, quoi. Et puis du coup j'aimais bien ne pas parler de la fin de l'histoire forcément, mais mettre des éléments quand même de la fin de l'histoire. Donc dans la couverture du coup de l'Histrion que vous trouverez en bouquiniste pour le coup, si on regarde les sculptures qui sont sur le balcon, en fait, elles racontent entièrement l'histoire de l'Histrion, en fait, et des petits gags comme ça, quoi, en fait. Et ça, c'était plus des jokes pour l'auteur, en fait, plus pour l'auteur.
Ouais, ouais, en fait, c'est une interaction entre toi et l'auteur, c'est un jeu entre toi et l'auteur. Ouais. Okay. D'accord. Enfin, vous pouvez pas vous empêcher de jouer.
Non.
Ok.
Non. Et là, le troll, par exemple, pour quelque chose d'un peu plus récent quand même, par exemple, Jean-Claude Dugnac, il a lancé il y a quelques années un personnage qui s'appelle le troll et qui est juste jubilatoire. Hein. Je vous invite vraiment, c'est des petits textes chez La Talente. Et moi, du coup, à chaque fois, j'ai hâte qu'il en envoie un nouveau parce que là, on a fait le deuxième, voire troisième, je crois, je sais plus. Et bon, à chaque fois tu te régales parce que lui il travaille dans une grosse administration, donc le troll en fait il est chef de service, il a les stagiaires, il a les nains, et tu te pisses dessus de rire, quoi, parce que tu sens qu'il a du vécu derrière, quoi, tu vois. Et il est amoureux d'une trollesse en fait, et à un moment donné il y a une histoire de boule à neige, parce que ici donc Marie Masson c'est une obsédée de la boule à neige, alors je pense qu'il y a eu un clin d'œil, et du coup j'ai fait un troll qui tenait une boule à neige, mais moi, dans ma boule à neige, dans la première boule à neige, en fait, il était juste en train de copuler sauvagement avec sa trollesse, tu vois. Et du coup, ça, ensuite, on l'a enlevé, forcément, donc la boule à neige publiée, elle est un peu plus soft, mais du coup, Jean-Claude Dugnac, lui, il s'est fait faire un tampon avec cette boule à neige porno, et donc, le tampon qu'il vous met dans la dédicace, c'est la boule à neige porno, quoi, en fait.
C'est par Sardon, peut-être, ou un mec comme ça, le tampon ?
C'est ?
Sardon, le tampon, ou...
J'ai pas compris.
Est-ce que c'est Sardon, le tampographe ? Parce que tu parles d'un tampon.
Non, je connais pas.
Il y a un mec qui fait des super tampons avec beaucoup d'humour en France.
C'est bien pour ça que j'avais pas compris la question. D'accord. Non.
Donc il y a voilà, le tampon graphe. D'accord. C'est son métier, voilà, Sardon, qui fait des tampons du meilleur goût.
Non, je croyais qu'il y avait, un gag, Sardon. Sardon qui
ah non, pas du tout, non, pas de jeu de mots, j'étais pas sur cette lancée. Mais, ça, mais en tout cas, ça pourrait tout à fait être le travail de ce mec.
D'accord.
Ce genre bon, de choses. Ouais. Je te conseille, c'était l'occasion. Bref, on va passer à une petite phase de questions. Je crois qu'il nous reste à peine 8 minutes. Je suis désolé. J'étais un peu ambitieux sur le sujet. On a été très très vite. Ok. Donc, si vous avez des questions, l'heure est venue et ça a l'air hyper speed.
En fait, si on illustre un univers, moi aussi j'adore ça, mais apparemment, dans ma façon à moi d'illustrer dans un univers, je suis un peu passionné YouTube. Apparemment, j'ai un ami et moi, on a une chaîne YouTube. Et en fait, on fait un truc d'univers imaginaire, on travaille pendant. On essaye d'illustrer des scénarios, de comment. Dans chaque vidéo, il faut correspondance particulière. Et en plus, dans chaque univers imaginaire, il y a l'exemple Warhammer. En fait, Warhammer, c'est un univers imaginaire, mais inspiré de trucs réels. Par exemple, si on prend le cas de la Lustrie, qui est inspirée de l'Amérique du Sud. Ou de Norska qui a inspiré la Scandinavie, mais en tout cas, Warhammer, je trouve que c'est un monde imaginaire que j'adore très bien parce que c'est vrai qu'il y a des contenus pour un univers imaginaire assez réaliste, toutefois assez avec une touche assez particulière, dure.
Si tu veux bien, je vais te demander de d'arriver à la question, ce qu'on.
Ah oui, la question.
C'est un tout petit peu long.
La question, si on illustre la chaîne, des fois, je mets des éléments d'autres univers. En fait, comme mon univers imaginaire, je mets des fois des éléments d'autres univers pour qu'il y ait un peu plus de culture qui est variée. Ce qui est un peu donné un aspect particulier. C'est vrai que des fois, j'y travaille un peu dans la chaîne, mais c'est pas si facile. Parce que, en fait, c'est vrai que j'adore beaucoup, j'imagine des fois beaucoup de choses, mais des fois, j'imagine des fois des choses bizarres. Et des fois, le bizarre, c'est un contenu, ce qui fait ce qu'il est.
Je vais réitérer. Est-ce que tu as une question, fondamentalement est-ce que tu as une vraie question avec un point d'interrogation est-ce que tu as une question, de fond à poser à mes petits collègues. En une phrase, ouais, t'as une phrase pour... T'en fais pas, sinon tu reviendras plus tard. Et puis au pire, tu pourras les voir, ils sont disponibles. Quelqu'un d'autre a une question ?
Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé des univers que vous avez illustrés à partir de textes, souvent, ou à partir d'œuvres. Est-ce que c'est souvent arrivé, même comme vous en avez dit qu'un texte a été remanié par rapport aux illustrations et qu'on est venu vous voir pour travailler un univers à partir d'une de vos illustrations qui n'était pas forcément liée à cet univers-là.
Un écrivain qui se serait inspiré d'une illustration.
Oui, un écrivain ou juste un créateur, par exemple, créer une histoire, même que ce soit une nouvelle ou peut-être créer univers.
Quoi. J'ai pas de souvenir précis là-dessus. Je sais qu'effectivement, dans les collaborations un petit peu longues, type Jean-Claude Duniac ou Ayerdal, effectivement, les premières couvertures ensuite ont influencé la construction de l'univers. Mais non, là, j'ai pas de titre particulier à te donner, non.
Après, ça s'adresse aux trois, hein, peut-être que des fois.
Oui, dans tous les cas, parles de livres, c'est pour ça. Ouais.
Alors moi je sais que j'ai un des auteurs de Casus Belli qui m'a demandé qu'on puisse travailler comme ça, on l'a pas fait encore, mais qui m'a demandé une illustration pour créer le scénario autour. Mais ça s'est pas fait encore.
Ça c'est fun ça. Ok. D'autres questions ?
Attendez. Comment vous faites les univers imaginaires que vous faites ? Comment vous les faites ?
Avec les doigts.
Ça c'est une question très très ouverte. Trop peut-être. Je vous laisse éclairer le sujet.
Avec les 10 doigts. Enfin, 5 doigts.
Ouais, avec une seule main.
Ouais.
Toujours. Ou sans les mains, d'ailleurs. On passe peut-être à une autre question.
Bonjour. Si vous aviez des conseils pour comment être un bon commanditaire.
Comment être un bon commanditaire?
Commanditaire, ouais. Ah oui, c'est une bonne question.
Déjà se cultiver, se former, je pense, à la notion de graphisme. Je sais pas, moi je réponds déjà de ce point de vue-là, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Oui, savoir au moins
de quoi on parle, quoi.
De quoi il s'agit, ouais.
Comment?
Là-dessus, ce serait déjà ça, ouais.
Pour être un bon commanditaire, je pense qu'il faut, il faut donner des contraintes, parce que c'est quand même plus facile d'avancer, je trouve, dans une illustration quand on a une base de départ, que tout faire tout seul, tout en ayant conscience qu'on demande à quelqu'un d'y amener sa sensibilité, d'y amener sa propre vision des choses, et donc de lui laisser un espace pour s'exprimer là-dedans quand même un peu. Voilà. Et dans l'idéal, essayer d'éviter les allers-retours au maximum, parce que je pense que personne ici adore les retouches.
Faire confiance.
Ouais. Du coup, c'était plus dans la même idée. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie, c'est un cahier des charges. Est-ce qu'on peut illustrer un univers avec un cahier des charges? Ou finalement, le plus important, ça va être votre patte, et du coup, avec le moins de. Enfin, un cahier des charges, disons, le plus blanc possible.
Ah ben, y a des tas de bouquins qui sortent illustrés, et je peux te dire qu'il y a un cahier des charges. Il n'y a pas le livre derrière. Il y a une blonde sur un cheval avec une canette de coca et des dragons. Enfin, par exemple.
Mais du coup, est-ce que c'est plus illustrer l'univers, c'est juste illustrer le cahier des charges? Est-ce qu'on peut illustrer
l'univers? Ah oui, c'est pour ça que je refuse, moi, de travailler de cette manière-là. Parce que quand tu as ta propre lecture. Enfin, moi, j'ai travaillé sur des illustrations où il y avait 75% du moi que je venais de vivre, moi, personnellement, que j'avais illustré, en fait, en l'adaptant au texte, dans le cas des romans là, qui me laissent un petit peu sec au bout de 3 jours de lecture, là tu es obligé de faire appel à ton propre vécu en disant bah, tiens, sur quoi tu peux rebondir. Et il y a eu même des textes de, par exemple, Robert Howard à l'époque, j'avais refait toute la série Néo qui était parue au Fleuve Noir Anticipation, donc il y avait 25 textes. Alors j'en faisais un par semaine, c'était cool, mais des fois tu étais un peu sec quand même, parce que le même personnage qui revient éternellement. Et donc il y a quelques illustrations qui ne correspondaient pas au texte lui-même, en fait. Mais ouais, non, le cahier des charges, c'est un peu triste, mais du point de vue, pour revenir aux premières questions, du coup, ça fait mieux payer le loyer. Parce qu'en fait, tu passes une fiche, tu la lis en 5 minutes, alors que le bouquin, il faut quand même y passer un peu, quoi.
Tu voulais répondre sur la question, James?
Je pense que de toute façon, il faut absolument un cahier des charges. Il y aura forcément 2-3 entrées nécessaires, le format, le nombre d'illustrations, etc. Après, on n'est pas obligé d'être exigeant sur le type d'image qu'on veut, ou on peut guider le dessinateur sur le type d'image qu'on veut obtenir, ou à quoi ça doit servir aussi, quoi, c'est important. Donc le cahier des charges vierge 100%, je crois que ça n'existe pas, en fait.
C'est plus un cahier des charges, effectivement.
À moins que tu aies un dernier mot, Gilles.
J'allais rebondir sur cette idée d'effectivement du cahier des charges, parce que moi ça m'est arrivé effectivement d'avoir, par exemple, ici avec la Talente, en fait, hein, c'est pas parce qu'ils sont à Nantes, mais on a beaucoup travaillé ensemble et il y a eu quelques ratés. Alors c'était pas sur des Moorcocks, ça je me serais fait tuer, mais il y a eu quelques textes où je me souviens, ils me disent il faut qu'on sente la complexité du texte, et déjà tu lis 3 fois le texte et tu le lis à haute voix parce que tu comprends rien. C'était, je sais pas, tu vois, une espèce de Matrix mais sous amphétamine et écrit, quoi. Donc et du coup là tu te dis waouh, on va essayer de, et en fait du coup la couverture, non, ça fonctionnait pas du tout, quoi, en fait. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas des fois trop se demander d'être libre, parce que justement ça part en cacahuète.
En général, quand il y a un blocage, moi, dans mon cas, j'ai toujours l'impression que ça vient du problème, enfin que le problème vient du brief ou du cahier des charges. Mmh. Il n'y a pas de blocage, enfin, tous les blocages que j'ai eus, c'est parce qu'il y avait une incompréhension entre le commanditaire et moi, et sur le brief, quoi. C'est qu'il y a un truc qui a été mal
préparé. Je sais pas s'il y a des écoles comment être un bon commanditaire, ce serait bien.
Ouais.
Et à l'inverse, est-ce que des écoles comme Pivot, dont on parlait, je sais que toi t'es passé par Sepia, les écoles vous préparent à ça? À ces interactions.
À gérer les commanditaires, ouais. Non, moi j'ai appris sur le tas.
Moi j'ai donné beaucoup de cours à droite à gauche, en fait, et depuis 2 ans j'ai créé une école dans le Vaucluse consacrée à l'illustration et aux jeux vidéo. Et je peux te dire que j'essaye de pas répéter ce que j'entends ailleurs, quoi, en fait, parce que les écoles d'art, enfin ça généralement c'est le truc, c'est n'accepte pas de boulot à moins de 450 euros. T'es le roi, tu sais ce que tu veux. Il faut. Et du coup, le mec, il a pas de boulot, quoi, en fait. Parce que il y a, je sais pas, à peu près en moyenne, il doit y avoir quoi, au moins 4 à 5 fois le nombre d'illustrateurs nécessaires qui sortent par an d'une école. Donc le commanditaire, de toute façon, il va bosser avec celui qui est quand même le plus cool au départ, quoi. Et moi, je compte plus les boulots bénévoles que j'ai pu faire au début, tu vois. Et pour te dire, moi, une première démarche, par exemple, que j'avais eue, c'était un journal qui s'appelait Le Rail. Et pareil, tu vois, 20 ans, tout content. Oh, je me dépêche. Et j'avais su qu'ils avaient contacté Swinmac, tu vois. Et ça n'avait pas pu marcher. Donc moi, j'ai rappelé le mec en disant, écoutez, je ne veux pas vous embêter, mais je peux vous faire le même boulot, mais gratuit. Enfin, ou moins cher. Et il m'avait dit, bah, si c'est bénévole, ça marche. Et du coup, bah, j'ai fait quand même le job, quoi, tu vois. Enfin, le même boulot, c'était pas tout à fait les termes que j'ai utilisés, on est d'accord.
On va libérer la salle, parce qu'on a déjà un peu mordu. Merci à vous, messieurs. Merci public.
Merci.